Bonsoir tout le monde. Vous entendez? Maintenant ça va?
Non.
Et maintenant? Ah. Eh bien, bonsoir tout le monde. Comme vous le savez, la fête de Sukkot, comme toutes les mitzvot de la Torah, a son origine dans le comportement des patriarches. Et effectivement, nous trouvons par exemple dans... Non, ça n'enregistre pas. Attends, quelque chose. Dans le livre de Bereshit, lors de la rencontre entre Yaakov et Ésaü, qui est une rencontre capitale dans la fondation de l'identité du peuple juif, à la fin de cette rencontre, la Torah nous dit « Vayelech Esav bayomahu ledarko Seira » Ésaü se rendit en ce jour sur sa route vers Seir, « Veyaakov nasa Sukkota » et Yaakov se rendit à Sukkot. Vaïven Lobaït, il se construisit une maison, ou lui Kneou, en sa Sukkot, et pour son bétail, il fit des Sukkot. C'est-à-dire que l'origine la plus lointaine de la mitzvah de faire une Sukkot, alors la fête de Sukkot, trouve son origine, l'origine la plus lointaine, c'est dans cette rencontre entre Yaakov et Esav. On peut dire dans l'achèvement de cette rencontre. C'est-à-dire, s'il y a une confrontation avec les dangers qu'elle comporte, et finalement, quand c'est réussi, alors on peut faire Sukkot. La confrontation se retrouve dans les mitzvot de la Torah, beaucoup plus tard, dans ce qu'on appelle l'envoi du Seir la'Azazel, lorsqu'on renvoie le bouc émissaire dans le désert. C'est ça la rencontre entre Yaakov et Esav, Vayelech Esav Lidarko Bayomahu Seira, donc Esav part dans le désert. Donc, vous comprenez bien que l'histoire de nos patriarches, c'est une histoire archétypique. C'est-à-dire, on peut dire que ce sont les intuitions premières de toute notre identité et de toute notre histoire qui se retrouvent dans ces récits-là. Et donc, il est important de comprendre la manière dont cette rencontre s'est faite et qu'est-ce qu'elle signifie pour les générations à venir. Il y a même, je pense, plus qu'un parfum d'actualité dans l'analyse de cette rencontre. Tout d'abord, vous connaissez le premier verset de cette rencontre. Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav et Esav Achiv Arta Seir Sede Edom. Yaakov envoya des délégués devant lui à Ésaü son frère au pays de Seir dans le champ d'Edom. Vous connaissez également l'interprétation de Rashi. Rashi nous dit Vaishlach Yaakov Malachim. Yaakov a envoyé des délégués. Le mot Malachim veut dire également des anges. Et Rashi dit que Yaakov a envoyé Malachim Mamash, vraiment des anges. La question se pose, c'est pourquoi est-ce qu'il a gaspillé ses pouvoirs à envoyer des anges chez son frère, alors qu'il aurait pu lui envoyer tout simplement des hommes. De plus, on voit dans la Torah que Yaakov a envoyé des anges à son frère qui était à Seir. Or, selon les Midrashim, et on peut le prouver également à partir du texte, pendant l'absence de Yaakov d'Eretz Israël, Ésaü se trouvait la plupart du temps non pas à Seir, mais à Hebron, chez son père, et non pas à Seir, chez son beau-père. Donc, si déjà Yaakov veut rencontrer Ésaü, il devrait envoyer des délégués à Hebron et non pas à Seir. Pourtant, il les envoie à Seir. Comment ? Ils sont assez enregistrés. Oui. Je pense que le Masga ne marche pas bien. Enfin, c'est une idée. Oui ? Bon, selon certains commentateurs, la raison... Je crois qu'il fait chaud. Je crois, c'est mon sentiment. Oui. Vous trouvez?
Bon. Je vais ouvrir la porte pour qu'il y
ait. Ah. Bon. Bon, les commentateurs disent que la raison pour laquelle Yaakov a envoyé des délégués à Seir, c'est parce qu'il voulait juger la montagne de Seir. Ainsi que dit le verset bien connu dans Ovadia, Ve'alou Moshirim Be'artzion, Lishpon et Aresav. Des sauveurs viendront sur la montagne de Sion pour juger le mont d'Ésaü. Vaïta la Shema Melucha, et alors Dieu aura la royauté. C'est-à-dire que, en fait, ce que voulait faire Yaakov quand il envoyait des anges chez Esav, il voulait préfigurer la fin de l'histoire. Il voulait en arriver à ce moment de l'histoire où on pourra juger l'œuvre d'Ésaü par rapport à l'œuvre de Yaakov. Effectivement, dans l'histoire, on se rend compte que les deux grandes civilisations dominantes dans, de l'histoire, c'est finalement Israël et Esav. Évidemment, il y en a d'autres, mais l'épine dorsale de l'histoire finalement est traversée par ces deux histoires-là, et c'est donc la, c'est-à-dire c'est le règlement de compte entre ces deux civilisations qui va finalement donner la signification de l'histoire. Pour revenir très directement à l'actualité, on se rend compte qu'aujourd'hui le débat politique, le règlement du conflit du Proche-Orient n'est pas véritablement un problème purement politique. C'est vrai qu'au niveau de du superficiel, il est tentant de dire qu'il s'agit simplement d'un problème de bon voisinage. C'est-à-dire, imaginez par exemple, on peut très bien assimiler le problème du Proche-Orient à un conflit. Un conflit de frontières, de tracés de frontières entre le Luxembourg et la Belgique. Alors imaginez par exemple donc que des Luxembourgeois aient un peu outrepassé les droits des Belges, et donc le tracé de la frontière entre le Luxembourg et la Belgique est sujet à débat. Alors on fait intervenir effectivement des cours internationales, on fait intervenir également le droit des peuples à l'autodétermination, on interroge des historiens pour savoir où est-ce que va passer le tracé, comment sera le tracé de la frontière entre le Luxembourg et la Belgique. Alors on peut dire que de manière analogue, c'est ce qui se passe en Eretz Israël. Il y a un problème de tracé de frontière. Il y a deux populations qui ne sont pas d'accord sur le tracé de la frontière. Voilà, c'est tout simple. C'est une simplicité limpide. Mais si ce n'était que ça, alors ça aurait été réglé déjà depuis 50 ans. C'est-à-dire que on dit, tiens, c'est quand même bizarre, comme par hasard, c'est vraiment surprenant que les partis en présence, c'est le peuple juif et puis les héritiers de l'islam et les héritiers de la chrétienté. Non, mais c'est tout à fait un hasard, ça aurait très bien pu être autre chose. Mais c'est un hasard, quand même surprenant. Il est même surprenant de se rendre compte que le territoire dont il est question, c'est quand même bizarre, quelle coïncidence, ça correspond à l'Eretz Israël biblique. Mais ça n'a rien à voir, surtout ne pensez pas qu'il y a un rapport. C'est tout simplement un pur hasard que les partis en présence sont l'islam, le judaïsme et la chrétienté, et que c'est tout à fait par hasard que le pays dont il est question, c'est Eretz Israël. Mais en fait, c'est un problème politique, banal, normal. Voilà, vous comprenez. Et comme par hasard, c'est quand même très surprenant, le problème n'est pas réglé. C'est quand même bizarre. Alors, en fait, quand on analyse vraiment ce qui se passe, on se rend compte qu'il s'agit de tout à fait autre chose. Il s'agit de savoir qui est le fer de lance de la civilisation universelle. C'est-à-dire, ce dont il est question, c'est de savoir qui, en fin de compte, va posséder l'hégémonie culturelle sur l'humanité. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où il y a, on peut dire, en tout et pour tout, quatre grands candidats à l'hégémonie universelle sur le plan de la culture. Il s'agit de la chrétienté, avec comme capitale Washington, de l'islam, avec comme capitale Paris, de la civilisation extrême orientale, avec comme représentant le plus fort aujourd'hui le Dalai Lama, et puis le peuple juif avec Jérusalem. C'est ça dont il est question. C'est-à-dire, nous avons aujourd'hui, dans le conflit du Proche-Orient, trois des quatre candidats qui sont mêlés. C'est ça dont il est question aujourd'hui. En fait, nous sommes aujourd'hui en plein justement dans la réalisation de la rencontre entre Yaakov et Esav. Plus précisément, entre Israël et la chrétienté. Quand on est vraiment lucide, on se rend compte que l'islam ici, finalement, ne remplit qu'un rôle secondaire dans le débat, même s'il est violent, même si l'islam use de la violence. Finalement, ce dont il est question, c'est de savoir qui juge véritablement de l'histoire. Est-ce que l'histoire est à analyser à la manière dont le christianisme l'analyse, ou est-ce que l'histoire est à analyser à la manière dont les juifs l'analysent? En fait, c'est ça dont il est question. Comme le faisait remarquer déjà Abraham Livni, la naissance de l'État d'Israël en plein XXe siècle pose un problème. C'est l'apparition en pleine modernité d'un événement biblique. Or ça révolutionne les modes de pensée. C'est-à-dire, le peuple d'Israël revenant sur sa terre réalise en cela la parole des prophètes, tout le monde le sait très bien, et cela pose un problème, cela fait poser deux questions au moins. La première question, c'est peut-être alors, si un événement biblique a pu se produire en pleine modernité, alors peut-être que cela veut dire que l'histoire se passe selon ce qu'en dit la Bible. C'est-à-dire, c'est peut-être ce que dit la Bible de l'histoire qui est vrai. Ça, c'est la première question. La deuxième question, peut-être encore plus gênante, c'est peut-être que c'est la manière qu'ont les juifs de lire la Bible qui est la vraie. Alors là, ça pose un problème. Et donc, des efforts vont être faits au niveau des médias, au niveau de toute la civilisation européenne, pour prouver que cet événement gênant qui est le peuple juif qui revient sur sa terre est un événement banal, en fait. C'est un événement accidentel, politique, qui n'a rien à voir avec l'identité biblique du peuple juif. C'est ça dont il est question. Quand on analyse le texte de la Torah, on se rend compte que ça n'a pas été, que déjà, dès le départ, on prévoyait une sorte de double histoire. Des moments de l'histoire où Israël remplirait véritablement son rôle, et des moments où c'est Ésaü qui prend le rôle, qui prend le premier rôle. Par exemple, je prends ici la symbolique du texte. Quand la Torah nous dit que Yaakov, notre ancêtre Jacob, part en exil, préfigurant ainsi le premier exil d'Israël, on nous dit Vayifga bamakom vayalen sham kiba hashemesh. Il rencontra l'endroit et il passa la nuit là-bas, Vayalem Sham, Kiba Hashemesh, car le soleil se couchait. En hébreu biblique, Ba Hashemesh, ça veut dire le soleil s'est couché. Mais selon le Zohar, il faut dire ça autrement. Ba Hashemesh, le soleil est venu. Le soleil étant dans la famille des patriarches, Ésaü. C'est-à-dire, c'est le moment pour Ésaü de dominer l'histoire est arrivé. Et donc, c'est le moment pour Yaakov d'entrer en veilleuse. C'est le moment pour lui d'aller dormir. Et puis, ça dure longtemps, jusqu'au moment où, en pleine nuit, Yaakov va dominer l'ange d'Ésaü, l'ange tutélaire d'Ésaü. Il va le vaincre, il va changer de nom. Il va passer de Yaakov à Israël. Ça veut dire qu'il est capable de lutter. Quand il est capable de lutter, ça veut donc dire qu'il est capable de reprendre la responsabilité de la politique, parce que faire la guerre, c'est être capable de faire la politique, et on ne peut faire de politique que si on est capable de faire la guerre. Sarita, c'est-à-dire tu as bataillé, Sarita im Elohim va'anashim, tu as bataillé avec des dieux et des hommes, et c'est à partir de ce moment-là que Yaakov va devenir Israël. Et donc il va rentrer à nouveau dans l'histoire, blessé, dans le nerf sciatique, mais il va rentrer dans l'histoire. Et c'est à partir de ce moment-là que le texte nous dit Vayavo Yaakov Shalem, non, Vatizrahlo Hashemesh, et le soleil se leva, brilla pour lui, Kaacher Avar et Penuel, vous soleil à Yericho, lorsqu'il avait passé Penuel et qu'il boitait sur sa hanche. Ça veut dire quoi? Que le soleil a brillé pour lui, Vatizrahlo Hashemesh. Eh bien, ça veut dire que le soleil a reluit à nouveau pour lui. C'est-à-dire que ça faisait longtemps, ça fait déjà quelques 22 ans, que Yaakov ne voyait pas le soleil briller pour lui. Il brillait pour Ésaü. Et donc, tout cela se fait lorsque il rencontre Ésaü en sortie d'histoire. On voit bien que pour sortir de l'histoire, il faut arracher des forces à l'ange tutélaire de Ésaü. Le texte nous dit, je pense qu'il est bien connu, qu'il est connu du public, Yaakov dit à l'ange, Lo al shalechacha ki im berachtani, je ne te renverrai pas tant que tu ne m'auras pas donné ta bénédiction. Et l'ange, contraint par Yaakov, donne sa bénédiction à Yaakov et s'en va. C'est quoi la bénédiction d'Ésaü? Eh bien, la bénédiction d'Ésaü, c'est la capacité d'être fort comme Ésaü. C'est-à-dire, c'est la capacité de prendre la responsabilité du politique et donc de la guerre. Effectivement, historiquement, on se rend compte que lorsque nous sommes revenus à notre terre, lorsque nous sommes sortis de l'histoire de l'attente, plus précisément, pour revenir à nouveau dans l'histoire politique, nous avons dû apprendre à former une armée. Et pour fonder une armée, on a eu besoin pour cela de juifs qui étaient officiers dans les armées des Goïm, dans les armées des Ahus, aussi bien chez les Anglais que chez les Russes. Enfin, il a fallu apprendre le métier chez Ésaü. On a pris la bénédiction de Ésaü et nous sommes donc capables maintenant de nous en servir. Alors, il y a des tentations. On peut, disons, la tentation, c'est l'auto-accusation morale. On peut se dire, c'est l'auto-flagellation. Maintenant que j'ai pris les forces des Ahus, eh bien, je suis devenu moi aussi un Ésaü. Je me sens coupable d'être capable de faire la guerre. Et ça, c'est une première tentation. Il y a également une tentation de se dire, puisque la légitimité du retour a été donnée par Ésaü, alors ça veut peut-être quand même dire que la norme suprême de la culture est chez Ésaü et pas chez moi. C'est pour ça que la rencontre entre Yaakov et l'ange est une rencontre difficile, dans laquelle Yaakov est blessé. Il est blessé quelque part. Quand il rencontre Ésaü, il lui dit « Ra'iti panecha kiro'ot pene Elohim » « J'ai vu que ton visage était un visage divin. » C'est-à-dire, il diagnostique dans le visage de Ésaü quelque chose qui relève de l'infini. Ça peut être même la tentation du christianisme, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, retrouver le visage de Dieu chez Ésaü. Et c'est cela que Yaakov doit être capable de dominer lors de son retour. Il doit être capable de non seulement de faire la guerre, de fonder un État, mais il doit, on peut dire, l'épreuve fondamentale, c'est de se savoir légitime en tant que Yaakov. De savoir que c'est lui qui est le porteur de la parole de Dieu sur terre et non pas Ésaü. C'est ce renversement qui prend du temps. Parce que même après avoir rencontré Ésaü, il est encore boiteux. Jusqu'au moment où le soleil brille pour lui. On peut dire que c'est une des épreuves de la société israélienne actuellement, c'est d'être capable de faire ce retournement mental. De comprendre que nous avons un message à adresser à l'humanité, et que c'est nous qui en sommes le porteur, et tant que nous ne le faisons pas, nous sommes coupables par rapport à notre mission. Nous avons une mission à remplir, et pourtant nous continuons à faire comme si c'était Ésaü qui dominait le monde. Ça influe sur le discours culturel, mais ça influe également sur le discours politique. C'est-à-dire toute la manière de penser le politique en Israël, en tout cas de dire le politique en Israël, est influencée encore par les normes de l'Occident. Quand nous parlons d'éthique au niveau politique, alors nous empruntons les normes de l'éthique à l'Occident également. Un exemple tout simple, on appelle morale ce qui est sensible. Il y a aujourd'hui une sorte de confusion entre la sensibilité et la morale. D'où par exemple des affirmations, on peut dire quasiment dogmatique, qui est, par exemple, si quelque chose passe à la si on voit une souffrance à la télévision, alors ça veut dire qu'on est immoral. Vous voyez, c'est ça un peu le problème. C'est-à-dire que c'est la télévision, l'imagination, qui va déterminer si une action politique ou militaire est morale ou pas, par exemple. Ça, je vous laisse réfléchir vous-même à quoi cela peut ne pas faire allusion, comme disait Manitou. Donc il y a ici ce problème de transformation. Je voudrais à ce propos lire avec vous un texte du Rav Kook tiré de Orot HaKodesh. Vous avez devant vous un texte, c'est celui-là, sur lequel il y a des lignes en haut, comme ça. Marot HaKodesh VeHaChomer. C'est de l'hébreu un peu difficile, même pour un hébréophone. Mais on va le traduire en français, donc ça va aller. Bintiot HaKodesh Shebaolam. Dans les tendances à la sainteté qu'on trouve dans le monde, Anu Motziim et Trunat Adnitiya Amutbaat Beteva Nefesh, on retrouve la tendance naturelle imprimé dans la nature de l'être, Gambit Dadea Achomrim Vashfalim, également dans ses aspects matériels et bas. C'est-à-dire ce que le Rav Kook entend ici par ces mots-là, c'est qu'il y a une tendance à la sainteté qui est liée également à la bassesse matérielle. Ça existe. Si on peut dire les superstitions, par exemple. On peut dire le sentiment, la tendance naturelle au sacré qu'on trouve chez les idolâtres, etc. Ça existe. Ça existe, ce n'est pas l'idéal, mais ça fait partie également de l'économie de la sainteté. Alors là, vous allez passer tout de suite à quatre lignes à partir du bas. Bitruna tachaim asher leumot arolam, dans la qualité, dans Bitruna, dans. Dans le contenu, non, pas Techoula, Techouna. Très bien, voilà. Dans les caractéristiques vitales qu'on trouve chez les nations, Bitruna Tachaim Asher Lumot Aolam, mais Kashkeshet Yanikuda Ativit Azot Gamken. Ce point naturel agit également. Et Tsurata Hayoter Mehulemet Lenachalat Goyim. La forme la plus appropriée à l'héritage des nations, Matza Alide Aminut, a été trouvée à travers le christianisme. Minut, c'est le christianisme. Sheatza Mehal'a Ligvoud Israël, qui est sorti en dehors des frontières d'Israël, Liot Lechoach Emouni Be'amim Rabim, pour devenir une force de foi dans de nombreuses nations. C'est-à-dire, on pourrait se dire effectivement que le christianisme remplit un rôle universel. Il transmet la foi aux nations. Avalkan nifrecha hadordia mikol yain alevanon. Mais ici, la lie s'est séparée du vin du Liban. Bon, ce sont des images. Ça veut dire qu'il n'est rien resté des aspects nobles de la foi. Il n'est resté que l'aspect, ils vont dire naturel, on pourrait dire finalement barbare. Vanekuda Homranit Betokpa Hayarud Vamekusham, et le point matériel dans toute sa puissance de bassesse et de matérialité, Motsa et Bituya Bat Ama, la Torah chez les Liliut Minusachan, trouve son expression en accord avec un contenu de paganisme formulé. C'est-à-dire ce qu'on appelle le dogme chrétien. Shelif Amim nitma ala chefet shel areach acharif asher lebakashat hakodesh nolad mimena. Il est parfois surprenant de voir que la force de l'odeur puissante de recherche de sainteté qui en est sortie. C'est-à-dire, on peut effectivement être impressionné par la puissance de l'esprit religieux chrétien. Ça existe. Aval miyad nargish re'ar shel basar. Mais rapidement, nous allons ressentir une odeur de chair. Ve'abassar olechu umaavir et tsurato. Et cette chair fait disparaître sa forme. Ve'sar kodesh yaavru me'alecha. Et cette chair, la chair de sainteté disparaît. Achimithave le besar hamurim, jusqu'à ce que cela devienne de la chair d'âne. De quoi s'agit-il? C'est un verset d'Ézéchiel dans lequel il parle de l'Égypte. Et en disant Bessar Hamorim Bessarim, c'est une chair d'âne que leur chair. C'est quoi une chair d'âne? Ça veut dire que cela ressemble extérieurement à la chair humaine, mais en fait c'est une chair d'âne. En quoi ça ressemble? Ça a le même poids. Ça pèse la même chose.
Oui.
La chair d'âne et la chair d'homme a le même poids. Hachave omnam be mishkalo le Bessar Adam. Qui pèse le même poids que la chair humaine. Vamishkalaze atruna hashvayit amekorit, et le fait qu'il y ait une sorte de ressemblance accidentelle à mikrit, lichora hi agoremet sheikvita dimshecha mitgale gamken al rechivato shechamorze. C'est ce qui cause que les pas du Messie viennent également en enfourchant cet âne-là. Vous savez que le Messie enfourche un âne. Alors, à quoi le Rav Kook fait-il allusion? Je suppose qu'il fait allusion justement au fait que la légitimité de la fondation de l'État d'Israël a été donnée par les chrétiens. C'est par un élan de foi chrétienne que les Britanniques ont donné la déclaration Balfour. C'est par une sorte de résonance biblique que les nations ont accordé, l'ONU, que les nations ont accordé la fondation de l'État d'Israël. Et donc il y aurait une sorte de dette que nous aurions par rapport à la chrétienté. C'est là, ils ont fourni d'une certaine manière l'âne du Mashiach. Chez Behemet, et nous hamoro chez Mashiach Adain, mais en vérité ce n'est pas l'âne du Mashiach. Shuada Akid Lavo Bimera Biamenu Bekarov, qui viendra vite et de nos jours. Kim Tula de Kufta de Hamre, mais en fait ce n'est que l'ombre des crottins de son âne. C'est une expression tirée de la Gemara dans Sanhedrin 98b. Ces ombres vont en disparaissant. Les filles tokef et arat hashemesh, autant que brillera le soleil. Shimsho shel Yaakov, le soleil de Yaakov, asher zarcha ba'avuro, qui avait brillé uniquement pour lui, les rapot et tzal'ato, pour le guérir de sa boiture. Shepagaba saro shel Esav, qui avait été causé par l'ange d'Ésaü. Et là, c'est très intéressant, il y a une expression tirée de la Gemara. Shenidmelo ketal mitracham me'evermise ou chelistim me'evermise. Lorsqu'il lui est apparu comme un sage d'une part et comme un brigand d'autre part. Effectivement, quand la Gemara dit que Yaakov a lutté contre l'ange d'Ésaü, il y a deux opinions dans la Gemara. Une opinion dit que l'ange lui est apparu comme un talmid chacham, comme un sage. C'est-à-dire qu'il y avait une argumentation théologique très serrée qui a pu tenter Yaakov. Et d'autre part, il y a une autre opinion qui dit qu'il lui est apparu comme un brigand qui voulait le tuer. Ce que dit le Rav Kook, c'est que les deux lui sont apparus à Yaakov. C'est un brigand dont on ne sait pas si c'est un talmid chacham. C'est-à-dire que c'est une violence destructive qui a des aspects extérieurs d'idéologie éthérée. Et c'est le soleil qui brille pour Yaakov, c'est-à-dire la prise de conscience de son rôle dans l'histoire et du message particulier dont il est porteur, qui fait disparaître ses ombres. Ve Yaakov, Asher Ha'emet Imenat Revlo, Karashema Makom Peniel, et Yaakov, dont l'héritage est la vérité, a nommé l'endroit Peniel, c'est-à-dire visage de Dieu. Kiraiti Elohim Panim El Panim, car j'ai vu Dieu face à face, Vatinatzel Nafshi, et mon âme a été sauvée. Vous voyez, c'est dit de manière extrêmement poétique. Il y a ici des images qu'il faudrait approfondir, mais enfin, je pense que ça met bien en évidence le problème que nous vivons actuellement. Il faut savoir à quoi nous faisons face. Nous faisons face à une exigence de remplir un rôle par rapport à l'humanité. À ce propos, je voudrais étudier avec vous deux textes. Je sais que c'est un peu difficile d'étudier des textes, mais ils sont quand même photocopiés, vous les avez devant les yeux. Et nous allons faire un effort de traduction, c'est plus facile cette fois-ci. Le premier texte, là vous avez, où il est écrit « Amahamar Harishon Ashar Ashlishi ». C'est ce texte-là. Est tiré d'un enseignement de Rabbi Avraham Bibago, que vous connaissez tous très bien. Donc je vais simplement vous expliquer qui c'était, mais c'est pour moi que je le fais. Rabbi Avraham Bibago est un des grands maîtres du judaïsme espagnol dans la génération qui a précédé l'expulsion d'Espagne. Il était probablement un élève de Rabbi Chisdaï Crescas, un des grands philosophes de la fin du judaïsme espagnol. Ce passage est tiré de son livre Derech Emuna, le chemin de la foi, qui a été rédigé probablement vers l'année 1480. Donc c'est pratiquement hier. Le texte que nous allons étudier, c'est une tentative de répondre à une question. Pourquoi est-ce que l'exil dure si longtemps? Nous avons en tout et pour tout dans notre histoire trois exils. Le premier étant celui d'Égypte, le deuxième celui de Babylone, et le troisième celui d'Édom. L'exil d'Égypte a duré, selon la tradition, 210 ans, grosso modo. 210 ans. Le deuxième exil, celui de Babylone, a duré 70 ans. Le troisième exil, celui de Rome, a duré 1880 ans. C'est énorme. C'est disproportionné. En effet, la destruction du temple, selon le compte juif, le compute juif, s'est produit en l'an 68, d'après les historiens en 70, enfin d'après notre tradition en l'an 68, et ça a duré 1880 ans jusqu'à ce qu'on en sorte. En 1948, ça a été fini. Mais c'est quand même gigantesque. Alors pourquoi? C'est ça la question. Quand Rabbi Avraham Bibago a écrit ce texte, il ne savait pas combien de temps ça durerait, mais il savait que c'était déjà assez long. En 1480, ça faisait déjà pas mal de temps. Et donc, il doit répondre à cette question en expliquant que la galoute, l'exil, crée ce qu'on appelle un bérour, une vérification, un tri, plus précisément. Il y a en effet, dans l'être d'Israël, ce qu'on appelle le Sechel Ha'Elyon. Ce que lui appelle le Sechel Ha'Elyon, c'est-à-dire l'intellect suprême, et en d'autres termes, on appelle ça la prophétie. La faculté prophétique est en Israël. Nous sommes les porteurs. Et le problème, c'est qu'il y a des rivaux. Nous avons des alternatives culturelles qui se proposent comme équivalentes à la prophétie. Et donc il faut les exils pour faire bien la différence. Et c'est pour ça que nous avons besoin de trois exils différents, parce que nous avons trois rivaux par rapport à notre identité. Je lis ici le texte, vous avez ici un petit crochet à côté du mot « iné ». Iné, iné ça veut dire « voilà, voici ». Et alors, et voilà. Hine, ha-sechel, hu, golé ben achushim, ou ben chelke hadimion. L'intelligence est en exil parmi les sens et les parties de l'imagination. C'est un proverbe philosophique ancien. C'est-à-dire, c'est comme si l'intelligence humaine partait en exil et se mêle au sens et à l'imagination. Asher yachnia ohu vigarshu mistaper benachalato, qui l'écrase et le renvoie de son héritage, veyasimu shafal vedal, et le met bien bas. Souvent, disons, on est tenté de remplacer l'intelligence par les sens. On peut dire, voilà, les sens, c'est palpable. La vie matérielle, ça on connaît. L'intelligence, c'est de l'abstrait, c'est donc de la vanité. Donc on est parfois tenté d'abandonner l'intelligence pour se contenter des sens. Ou bien, à la place de l'intelligence, de l'imagination. Par exemple, aujourd'hui, il y a une entreprise gigantesque de remplacement de l'intelligence par l'imagination. Ça s'appelle la télévision. Ça, ça sert à ça. C'est-à-dire, au lieu de penser, on imagine. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on écoute, par exemple, des candidats à la présidence aux États-Unis, eh bien, c'est la grande confrontation télévisée qui va dire à qui on adhère. C'est-à-dire, qui aura le mieux impressionné, qui aura mieux passé l'écran. Peu importe quels sont les arguments intellectuels qui sont présentés par l'un ou par l'autre, ce qui est important, c'est de savoir s'il a pu bien impressionner. C'est-à-dire, nous sommes dans une culture dominée par l'imagination, par exemple. C'est-à-dire que nous avons des rivaux. Et l'intelligence est en rivalité avec des alternatives. Alors voyons de quoi il s'agit. Ken ha'uma yisraelit, de même la nation d'Israël. Heyota bagalut, le fait qu'elle soit en exil, hu mishlemuta, fait partie de son perfectionnement. Ad tashkif veteda mahut aserel ha'amiti, jusqu'à ce qu'elle sache la nature de l'intelligence véritable. Et c'est alors qu'elle sera un intellect en action, en acte. Vers kochota acherot, et les autres forces, tiyena nichnaot, elze haserel. Et alors les autres forces seront soumises à l'intelligence. Vegama umot acherot, et alors les autres nations également se soumettront à cette nation-là. Ve'az lo yosif le'aglota, et alors on ne partira plus en exil, ou vila hammavet la netzach, la mort disparaîtra à jamais. Passez à la dernière ligne en bas. Ilazot, c'est pour cette raison, galta ha'uma azot shalosh galuyot keseder, que cette nation est partie trois fois en exil. Harishon de Mitzrayim, la première fois en Égypte. Hanim Shachim Achare Achush, l'Égypte est attirée par les sens. Kemo Sheyigle Aserel Ben Achushim, de même que l'intelligence est en exil parmi les sens, Umisham Alta Venigala, et c'est de là que cette nation est montée et a été libérée. De quoi s'agit-il ? L'Égypte ancienne était une civilisation extrêmement attirante. C'est une civilisation qui avait réussi à porter au maximum la sensibilité du concret. C'est ce qu'on appelait la magie de l'Égypte. C'est-à-dire, c'était porter à son plus haut niveau l'intuition qu'on peut trouver encore dans les tribus africaines qui s'occupent de sorcellerie. Et c'était extrêmement envoûtant de vivre dans cette civilisation. On pouvait effectivement s'imaginer que toute la spiritualité se trouvait concentrée chez les magiciens de l'Égypte. Et c'est pour ça que lorsque Moshe Rabbeinu a été confronté à l'Égypte, la première chose qu'il a fait, c'est de faire de la magie. C'est-à-dire, les premiers miracles opérés par Moshe Rabbeinu sont des miracles qui sont opérés également par les magiciens. Et pourquoi est-ce que Moshe fait cela ? Eh bien justement pour qu'on arrive au moment de la différence. Lors de la plaie, la troisième plaie, celle des poux, les magiciens sont incapables de faire ce que Moshe fait, et alors ils disent « Etzba Elohim hi », c'est le doigt de Dieu. C'est-à-dire, il a fallu d'abord se mettre sur un pied d'égalité avec les magiciens de l'Égypte pour que la capacité miraculeuse, prophétique de Moshe soit en décalage par rapport à cette civilisation-là. Combien de temps ça prend ? Eh bien, ça prend 210 ans. Il faut 210 ans d'abord pour se mêler à l'Égypte, pour que la confusion soit possible, et qu'alors la différence soit mise en évidence. Ça prend combien de temps ? 210 ans. Je relis le texte. « Vegalta shenit » et elle a été exilée une deuxième fois. Le deuxième exil a été à Babylone, dans le lieu de l'imagination. La science des Babyloniens, c'était la science des rêves, de l'interprétation des rêves. Et d'ailleurs, on voit à nouveau ce qui se passe dans le livre de Daniel. Daniel, étant le dirigeant d'Israël en Babylonie, sa science, c'est tout d'abord, il apprend la science des Chaldéens, c'est écrit en toutes lettres dans le texte. Il apprend à interpréter les rêves, et c'est lorsque les sages de Babylone n'arrivent pas à interpréter le rêve de Nabucodonosor qu'intervient Daniel pour l'interpréter. Et là, donc, est mise en évidence la différence entre la prophétie d'Israël et la capacité d'imagination des sages de Babylone. Et donc, ça prend en tout 70 ans et on peut sortir de là-bas. Et 70 ans, c'est pas beaucoup par rapport à 210 ans. Mais alors, dans ce cas-là, on peut se demander, mais qu'est-ce que nous avons comme rival dans le troisième exil pour que ça dure si longtemps ? Végaltash Lichit. Et alors, nous sommes partis une troisième fois en exil. Et quel est le rival donc du Sechel Haelyon ? Quel est le rival de l'intelligence suprême ou de la prophétie ? Là, il va donner ici une expression très forte. Ben achushat vuniyi kemoshi ata be'edom. Nous sommes partis en exil dans le sens raisonnable. Achushat vuniyi. C'est-à-dire, nous sommes en rivalité avec la philosophie occidentale. La philosophie ici est appelée achushat vuniyi. C'est-à-dire, ça a l'air d'être de la raison, et en vérité, c'est du sens. C'est du sens purement matériel. Mais ça prend très longtemps à s'en rendre compte. C'est-à-dire que la philosophie, pendant très longtemps, a donné l'illusion d'être la raison pure. Alors qu'en fait, toutes les intuitions fondamentales de la philosophie sont dans le matériel. Ça a pris très longtemps, et ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle que la philosophie occidentale elle-même est arrivée à la conclusion que la raison pure n'était qu'une fiction. L'auteur de la critique de la raison pure est arrivé à la conclusion que toutes les intuitions fondamentales de la réflexion humaine ont leur origine dans les sens. Et c'est alors que la philosophie, dans le sens classique du terme, a été ruinée par Emmanuel Kant. Or, c'est justement au moment où cette prise de conscience de la philosophie, de sa vanité, apparaît, c'est à partir du moment où la philosophie occidentale s'est rendue compte de son échec, que l'on a commencé à parler du retour d'Israël sur sa terre. Un contemporain d'Emmanuel Kant, qui s'appelait, je crois, Napoléon, si je me trompe, Bonaparte, a été le premier à lancer un appel au peuple juif à revenir en Judée. Lors de son passage ici dans les environs, bon, il l'a fait pour ses raisons propres, il l'a fait pour des raisons politiques à lui, mais c'est la première fois qu'un appel de ce genre a été lancé par un des dirigeants de l'humanité au peuple juif. Et donc vous voyez que ça prend très longtemps, parce qu'il faut faire ce bérour. Mais à partir du moment où c'est fait, eh bien l'exil devient superflu, on peut en sortir. C'est ce que dit ici Rabbi Avraham Ivago. Étant donné que cette force de raison est extrêmement respectable, au point qu'on peut croire qu'il n'y a pas de différence entre cela et l'intelligence. On peut dire, on peut croire que la philosophie et la prophétie, c'est la même chose. Et certains de nos maîtres au Moyen-Âge ont été tentés par cette vision-là, de penser que les philosophes, que les prophètes n'étaient qu'une sorte de philosophe. À cause de cela, nit'arech zeh hagalut. C'est pour cela que cet exil est si long. Ad she'adimyon ve'ata'a goveret tipased, jusqu'à ce que cette illusion disparaisse. Et à nouveau, que le soleil de Yaakov brille. Voilà, ça c'est le deuxième texte qui est important, c'est-à-dire qu'une partie de notre confrontation avec Ésaü, eh bien c'est cela, justement. C'est de savoir faire la différence entre ce qui est la substantifique moelle de la civilisation occidentale, c'est-à-dire la réflexion philosophique, et les capacités prophétiques qui sont encore en veilleuse dans le peuple juif, mais qui ne sont qu'en veilleuse, qui sont endormies, qu'il faut réveiller. C'est-à-dire, on peut dire que notre retour en Eretz Israël a pour but de restaurer la civilisation prophétique. Ça demande beaucoup d'efforts, ça demande entre autres le retour d'Israël à sa terre, le retour de tout Israël à toute sa terre et à toute sa Torah. Alors vous voyez bien que les enjeux politiques que nous vivons actuellement tournent autour de ça, de savoir est-ce que l'on va permettre à l'identité d'Israël de se manifester ou est-ce qu'elle va rester étouffée. C'est ça dont il est question. C'est peut-être pour ça justement que le débat est entre dans le débat politique, on essaye de mettre en accusation justement cette partie de la société israélienne qui serait le plus apte justement à cette résurrection culturelle. Peut-être que c'est lié au fait que c'est le territoire, que ce dont il est question actuellement, c'est le territoire dans lequel a vécu Yitzhak Avinu, qui était le, d'après le Zohar, ce qu'on appelle Tushbarta de Avan, c'est-à-dire la, ce qu'il y avait de meilleur chez les patriarches. Effectivement, le lieu où Yaakov, où Yitzhak a décidé de vivre, c'était la région de Gerar, qu'on appelle aujourd'hui, en hébreu moderne, Gush Katif. Donc ceci est une première analyse. Je pense que vous êtes certainement fatigué, mais c'est de votre faute, vous n'avez qu'à pas venir étudier le soir. Et je voudrais maintenant arriver au texte essentiel. Tout cela, ce n'était que des introductions. Je ne sais pas si le climatiseur est bon, ou je ne sais pas, etc. Vous avez trop chaud, trop froid, je ne sais pas. Ça va? Vous ne souffrez pas? Hein? Moi, je ne reçois pas, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est vous. Bon, tandis qu'il y a un micro, ça va. Je ne suis pas obligé de crier. Oui? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez trop chaud ou trop froid? Décidez-vous. Et oui, Emmanuel? Il paraît qu'il fait trop chaud. Non, il paraît qu'il fait trop froid. À savoir. Bon, je ne me mêle pas. Le troisième texte, c'est un enseignement de Rabbi Tzadok de Lublin dans son livre Peri Tzadik. Bélineder, l'année prochaine, j'espère qu'on va faire un texte oral, enfin on va faire un cours oral. Mais enfin, c'est intéressant de temps en temps de faire une étude de texte. Vous avez ici un texte tiré du Peri Tzadik de Rabbi Tzadok de Lublin. C'est un texte vieux, donc de 150 ans à peu près. Comment ? Vous n'avez pas reçu le troisième texte? Vous n'avez pas reçu? Si, si, voilà, il y en a un qui l'a là. Voilà, voilà, certains l'ont. J'en ai encore un. Qui veut? Oui. Donc c'est un texte tiré du Peri Tzadik, Rabbi Tzadok de Lublin, sur, à nouveau sur la rencontre entre Yaakov et Ésaü. Bebereshit Rabba, dans le Midrash, Al Pasuk Vaishtachu Arza Sheva Pe'amim, à propos du verset où Yaakov se prosterne devant Ésaü sept fois. Vaishtachu Arza Sheva Pe'amim Ad Gishto Ad Achiv. Il s'est prosterné sept fois jusqu'à ce qu'il s'approche de son frère. C'est-à-dire la rencontre entre Yaakov et Ésaü passe par une chute répétée de Yaakov. Il tombe sept fois devant son frère. C'est quand même surprenant. Le Midrash dit Lama Sheva, pourquoi sept fois? Al-Shem, ki Sheva, Yipol Tzadik, Vakam. Parce que le verset dit le Tzadik tombe sept fois et se relève. Leshon Tzadik, que veut dire l'expression Tzadik? Yore almi shekvar nishlam signifie qu'il s'agit de quelqu'un qui est déjà parfait. Ve'im kolze yeshlo od nefilot, mais qui malgré tout tombe à nouveau. C'est paradoxal. On est parfait, mais on tombe quand même. C'est on est parfait, mais on ne le sait pas encore. Donc on doit tomber cette fois pour apprendre qu'on est parfait. D'accord, c'est ça le tzaddik. Le tzaddik tombe sept fois pour qu'il sache vraiment en quoi est-ce qu'il est tzaddik. Donc si vous êtes tzaddik, sachez que ça, y a un prix à payer. Urmo, Yaakov avinu alav shalom. Comme par exemple, Yaakov, notre père, qu'il repose en paix, Leachar shekvar nitzeach et amalach ve'amarlo, après qu'il ait déjà vaincu l'ange, et qui lui ait dit qu'il s'arrita avec Gomer, et que l'ange lui ait dit tu as lutté, etc. Vatuchal, et tu as vaincu. Aim kolze, malgré tout cela, Ah oui, on me fait remarquer que l'appel de Napoléon a effectivement a été étudié de manière très érudite par notre ami le docteur René Neher, qui est hospitalisé et à qui nous souhaitons Rifoua Shelema. Et que cette étude soit pour sa bonne guérison. Amen, dites Amen. Bon, ah ben voilà, ça y est. Ah. Bon. Donc, revenons donc au Péri Tzadik. Im kolze, bien qu'ayant vaincu l'ange, hirgish shebechrach liot od kama nifilot lebanav. Yaakov a ressenti que ses enfants auront à nouveau des chutes, ad sheva, jusqu'au nombre de 7. C'est-à-dire qu'il y aurait 7 chutes d'Israël pendant l'histoire, et que c'est à travers ces 7 chutes-là que nous apprendrons qui nous sommes. Alors vous voyez donc, Rabbi Avraham Ibago a parlé de 3 exils, mais en fait, il y a eu 7 épreuves. C'est-à-dire, 3 parmi les 7 étaient des exils, mais il y a eu en tout 7 épreuves. Kedel lehit barer, pour se vérifier, Behasheva Midot Akedoshot, par rapport aux 7 vertus saintes. C'est-à-dire, l'identité d'Israël doit être formée par l'unité de 7 valeurs différentes. Le grand principe que enseigne toujours Manitou, c'est que l'idéal moral d'Israël, c'est l'unité des valeurs. C'est-à-dire, ce n'est pas préférer une valeur aux autres, mais c'est au contraire faire l'unité. Il disait, sacrifier à une valeur, c'est sacrifier les autres valeurs. Et on ne peut vivre pleinement la moralité que s'il y a toutes les valeurs à la fois. Ve'alze meramez apasuk, c'est ce qui est en allusion dans le verset, Beshesh tzarot, c'est un verset de Job. Beshesh tzarot yatzilecha, il te sauvera de 6 dangers. Ou ve'sheva loiga bechara, quand tu arriveras au 7e, le mal n'aura plus de prise sur toi. Chez Hachesh Tzarot, les 6 malheurs, Meramez à la Shisha Galouyot chez le clan Israël. Il s'agit des 6 exils de la communauté d'Israël. Chez Nirchevou be Midrash Rabba, tels qu'ils ont été comptés dans le Midrash Rabba, Vehem, qui sont Mitzraim ve Ashur, l'Égypte et la Syrie, ve Arba Galouyot et les 4 empires. Chehem Levarer Baem Kolamidot Akedoshot, qui viennent pour vérifier en nous les 6 toutes les vertus saintes, ou Sheva Loigar Bechara, et lors de la 7e, le mal n'aura pas de prise sur toi. Meramez, cela fait allusion al Milchemot Gog ou Magog. Il s'agit des guerres de Gog et Magog. Donc nous avons une guerre, nous avons des guerres menées par. Vous savez que chez les Yéménites, on ne dit pas Gog, on dit Jot. Et c'est un démagogue. Chez Lo Yaspik Leagiahara, le mal n'aura pas le temps d'arriver. Chez Yielo Mapala Miad, car il tombera tout de suite. Veyierak Pahad, mais il n'y aura que la peur. C'est-à-dire, nous aurons une épreuve, nous aurons peur, mais finalement, il n'y aura que la peur. Kemo Shenehemar, ainsi qu'il est dit, Yoshev Vashamaim Ishak Vegomer, celui qui réside dans le ciel, se moque. Vem Baim Levarer et Amidot Akedoshot Meaefer, et cela vient vérifier les vertus saintes de leur contraire. Alors là, nous allons avoir ici toute une revue de l'histoire. C'est-à-dire, nous avons 7 épreuves à passer, pourquoi faire ? Bon, vous savez que les 7 composants de l'identité d'Israël, on les retrouve dans les 7 ushpizines, les 7 invités de la Souka à Soukot, qui sont nos ancêtres Abraham, Yitzhak et Yaakov, puis nos maîtres Moshe et Aaron, et puis 2 tzadikim, Yosef et David. C'est-à-dire, c'est lorsqu'on est capable d'être ces 7 choses à la fois, ces 7 identités à la fois, que nous sommes véritablement Israël. Alors, ça s'est fait à travers les 7 épreuve de l'histoire. Ki Mitzrayim ervat haaretz, car l'Égypte c'est la nudité de la terre. Hu amenaged libechinat ahava vachesed shebikdusha, c'est ce qui s'oppose à l'amour et à la bonté dans la sainteté. C'est-à-dire la débauche, la dépravation sexuelle, qui était la puissance de l'Égypte, c'est le fruit d'un manque d'amour. C'est-à-dire la débauche sexuelle a pour origine l'incapacité de véritablement aimer. Alors on recherche dans l'immédiat la satisfaction du plaisir, du désir, pour se prouver que le monde a un sens dans un monde où on a perdu la capacité d'aimer. Donc on voit bien que l'Égypte, puisqu'elle a justement proposé comme idéal de vie cette débauche, c'est qu'elle était le contraire de l'amour porté par Abraham. C'est ça dont il est question ici. C'est pourquoi c'est à Abraham qu'a été révélé de manière expresse l'exil d'Égypte. Ils seront asservis et affligés, afin de mettre en évidence sa vertu. Veïta, et on trouve également Kol ha'umot, là il faut passer à la colonne de gauche, toutes les nations, Nikreu al-Shem Mitzrayim, al-Shem Shemetzerot et Israël, toutes les nations sont appelées du nom de l'Égypte parce qu'elles sont rivales d'Israël. Ve'aynu, Shebe'anyan azeh yesh lekol nefesh mi'Israël, Meitzer ve'dachak, Shemiklok, Sherotse lifnot et Atzmo la'Kdusha. C'est l'origine de l'angoisse que ressent chaque juif quand il veut s'approcher de la sainteté. C'est-à-dire c'est un résidu de l'Égypte qui nous met à l'étroit, Mitzrayim, du mot Metzar, c'est-à-dire ce qui est étroit. Ve Ashur, par contre, Ashur, ou Amenaged Lemidat Yitzhak, c'est le contraire de la vertu d'Yitzhak, Hagevura, la vaillance, chez Bakedusha. Urshem, Ashur, chez Ul Leshon Tokef et Koar, de même que le mot Ashur veut dire puissance et force. On trouve également dans le discours de Rav Shakeh, qui était le délégué du roi d'Assyrie, Aitza Ugvura la Milchama, on voit effectivement qu'il parle de force, chez Zeutachlit Kocho Be'afer. C'est-à-dire la violence brutale, la violence politique brutale, c'est la capacité, c'est la vertu, si on veut, de l'Assyrie. Tandis qu'Israël, sa puissance politique, a une finalité morale. Vegam kolagoyim nikriu al shem Ashur. De même, toutes les nations portent le nom de Ashur, Shayu Mashri Natsma mi Israël, qui se renforçait à partir d'Israël, comme Moshamo Bimidrash Rabba. Ki elush temidot, car ces deux caractéristiques, Taish, Behefer, Hem Gamken, Hem Keneget Klipot Ishmael ve Esav. Cela correspond également aux écorces d'Ishmael et d'Esaü, Shem Klaliyut, Shel Klipot Kayadua, qui sont l'ensemble des écorces, comme on le sait. Ou Bavel Veyavan, quant à Babylone et la Grèce. Il s'agit maintenant, nous passons après l'Égypte et Ashur, nous passons aux quatre empires. Les quatre empires sont Babylone, la Perse, la Grèce et Rome. Alors, on prend ici le premier et le troisième, c'est-à-dire Babylone et la Grèce. Hema menagdim likdushat Moshe ve'Aaron, sont les opposants de la sainteté de Moïse et d'Aaron. Aïnou, l'iprinat Torah chez Birta, et Torah chez Béalpé. C'est-à-dire ce qui est à l'origine de la loi écrite, c'est-à-dire Moshe, et de la loi orale à Aaron. Ki Bavel, menaged les Torahs de Moshe. Car Babylone, c'est le contraire de la loi de Moshe. Ah bon. Chez Az, Begalout, Bavel, aya odit galout nevim, chez Nitnou Lichtov, que Daniel vechaverav. Car à Babylone, il y avait encore des prophètes. Lors de l'exil de Babylone, il y avait Daniel et Ézéchiel et tout le reste. Ou Léomadze Aya Baklipa Bekoarze, et c'est pour ça qu'en face de nous, il y avait la force des Hartumim Vashafim Vechachme Babel. Il y avait les magiciens de Babylone. C'est-à-dire il y avait encore des magiciens à Babylone parce qu'il y avait encore des prophètes en Israël. Selon le principe, Zé Léomadze Asa Elohim. Dieu fait une force en parallèle avec une autre force. Il y avait encore la tentation de l'idolâtrie. Et donc c'est l'opposant de Moshe. Omlam klipat yavan, mais l'écorce de la Grèce, ou les neged Torah shebe'alpe, vient s'opposer à la loi orale, shehu midat Aaron, qui est la force d'Aaron. Dirtiv Torah Emet Aïta Befiou, quand on dit une loi de vérité était dans sa bouche, etc. Vetorah Yevakshu Mipiou, on demande la Torah de sa bouche. Venehemar Veuyelecha L'Epeh, et d'Aaron on dit il sera ta bouche. Ki Az Bimei Shimon Hatzadik, car du temps de Simon le Juste, c'est-à-dire Simon le Juste, c'est celui qui a rencontré Alexandre le Grand, celui qui a amené la civilisation hellénistique en Eretz Israël. Les achar shepasku kvar itgalut anivim, lorsqu'on cessait les révélations des prophètes. Ve'ayazman anshe knesset agdola, c'était le temps de la grande assemblée. Shebitlu yitzra de avodazara, qui ont aboli la tentation de l'idolâtrie. Ve'gazru gezerot la sot siag la Torah, et qui ont fait des décrets pour soutenir la Torah. C'est alors qu'est apparue la sagesse grecque et les sadducéens. Et c'est alors qu'a été mise en évidence la sainteté de la loi orale par nos maîtres, les Tanaïm, les maîtres de la Mishnah. C'est-à-dire, la Torah chez Béalpé, ce qu'on appelle la Mishnah et le Talmud, c'est, si vous voulez, l'opposant de ce que propose la civilisation hellénistique. C'est la vertu d'Aaron. Donc vous avez donc déjà, nous avons déjà quatre des Ushpizines, Abraham et Yitzhak, Moshe et Aaron. C'est-à-dire, il faut bien comprendre que la Torah prend une nouvelle forme à chaque fois qu'il y a un nouvel enjeu à l'extérieur. C'est-à-dire, la Torah est reformulée selon les enjeux culturels de l'époque. Alors qu'est-ce qu'il nous reste encore? Ben, Yaakov et Yosef. Mais c'est très simple, c'est Paras et Edom.
Pourquoi le Talmud est né à Babylone?
Le Talmud est né à Babylone dans la sphère d'influence de l'hellénisme. C'est-à-dire, la Babylonie qui a donné le Talmud, ce n'est pas la Babylonie de l'époque de Daniel. C'est une Babylonie qui est passée par les Séleucides. C'est déjà autre chose. Ou Pharas ve Edom, quant à la Perse et Rome, Hema Minagdim Liprinat Yaakov ve Yosef, ce sont les opposants de ce qui est en nous l'identité de Yaakov et de Joseph. Kedeita, ainsi que dit le Midrash, Temima Zoparas Umadai, parfaite, c'est-à-dire on parle ici de la vache rousse qui était parfaite, ça correspond à la Perse et à la Médie. Temimim Hayou, ils sont parfaits. Elo la Kadosh Baruch Hu Aleihem Rak She'avdu Avodazara She'kiblu Me'avotehem Bilvad. C'est-à-dire, il y a ici une louange qui est faite à la Perse, qu'ils sont sur le plan moral parfaits, mais qu'ils sont seulement. Shlosha Devarim Moev Ani Taparsim Utsnuim Bedavar Acher. Il y a des vertus des Perses qui sont louées chez les Chachamim. Vacharese, et pourtant, dit la Gemara, Ani Tziviti Limkudashai. J'ai préparé mes prédisposés, Elou Aparsim, ce sont les Perses, Amekudashim, Umzumanim, les Geinam, qui ont l'air d'être saints à l'extérieur, mais qui sont voués à l'enfer. Vaïnou, c'est-à-dire, Agam, She'alagavan, c'est-à-dire la colonne de droite, Nir'e, She'yesh, Bahem, Mida, Asher, Israël, Nikou, Kedoshim, ils ont l'air de posséder la sainteté d'Israël, Kmo, She'amrou, Alachash, Verosh, etc., comme on le trouve plusieurs enseignements de la Gemara, Im Kolze, Aliédé ze mekudashim umzumanim legeinam, ils sont voués à l'enfer, shatsniu shelaem enam eno migeder akedusha, car leur pudeur en fait ne relève pas de la kedusha. C'est-à-dire, ce qui met ici, ce qui semble être la louange de la Perse, c'est la pudeur. Leurs femmes sont vêtues de manière la plus grande sniout possible, etc. Donc on a l'impression, au premier abord, de voir ici une certaine pureté qui ressemble à la pureté d'Israël, mais en fait il y a ici une hypocrisie. Mais en tout cas c'est ce qui permet à Haman d'envisager la solution finale, de détruire Israël, parce que la Perse se présente comme quelque chose qui pourrait remplacer Israël. Donc celui-là c'est l'opposant de Yaakov. Ve Edom, quant à Edom, c'est-à-dire Rome, Keneged Bechinat Kedushat Yosef. C'est l'opposant à Yosef. En quoi? En quoi est-ce que Rome s'oppose à Yosef? Là, il amène ici un midrash qui est Amalek Nofel et la bidé banéa chez Rachel. on dit que Amalek, qui est le petit-fils d'Ésaü, ne tombe qu'aux mains des descendants de Rachel, c'est-à-dire de Yosef et de Binyamin. Pour Moshe Neemar, ainsi qu'il est dit, Vayei kasher yalda Rachel et Yosef, ce fut lorsque Rachel avait enfanté Yosef que Yaakov dit à Lavan, je veux rentrer chez moi. Et dit Rashi, Shekvar nolat sitno shel Esav, car l'opposant d'Ésaü est né. Que Moshe Amrou Bereshit Rabba, comme on l'a dit dans Bereshit Rabba. En quoi est-ce que Yosef est-il l'opposant de Rome? Yosef est celui des fils de Yaakov qui est capable de prendre en main la politique. La politique et l'économie. Or, c'est justement en cela que. C'est de cela dont s'est enorgueilli Rome. La capacité justement de créer un système politique qui pourra gérer la société dans jusqu'au moindre détail. Eh bien, nous avons en cela, nous avons chez nous un opposant qui est capable d'entrer en rivalité avec Rome. C'est pour ça d'ailleurs que lorsque Rome tente de se prendre pour Yosef, elle va se donner un messie, fils de Joseph, à nouveau. Alors, ils vont lui donner ce nom-là. Comme disait Manitou, c'est un Yosef devenu romain. Il faut pour s'en dégager, il faut pour ça un contenu pratiquement miraculeux, une potion magique. Végog ou Magog, quant au septième épreuve, parce que nous avons fini avec les six premières, c'est-à-dire nous sommes déjà dans cette phase de l'histoire où nous avons fini nos six premières épreuves. Végog ou Magog. Et la dernière confrontation, celle de Gog et Magog, Yetachlit Aberur chez le Mashiach ben David. Ce sera l'achèvement de la vérification de la mise en évidence de ce qu'est le Mashiach ben David. Kemoshe Nehemar à la Shem Val Meshicho. Car dans la guerre de Gog et Magog, le texte de Tehilim nous dit qu'il s'agit d'une guerre contre Dieu et son Messie. Ou Vetachlit Aberur à Sheviai. Et lorsque sera fini la septième vérification, Yiye Ageoula Shelema, ce sera le moment de la délivrance définitive. Ve'alze Nehemar, c'est de cela dont il est dit, Vaishtahu Sheva Pe'amim Adgishto Adachiv, il se prosterna sept fois avant de rencontrer son frère. C'est-à-dire, vous voyez ici une allusion quand même, que la civilisation occidentale est potentiellement en fraternité avec nous. Mais ça prend du temps. Pendant toutes les sept chutes de l'histoire, ce sont nos ennemis. Avant que cela devienne nos frères, il y a tout un bérour à faire. Haïnou, c'est-à-dire, Sheye Beze Tachlit Akima. C'est alors que nous en arriverons à nous relever totalement. Kemoshe Neemar, ainsi que dit le texte, Ve'alou Moshiim Ve'artzion. C'est alors que monteront des sauveurs dans la montagne de Sion. L'Ishpod est arrêtable pour juger la montagne d'Ésaü. Vaïta l'Hachem Amelucha, et alors Dieu régnera. Bimera, Béamenu, merci de votre attention. Chag Sameach.